Complètement à l'Ouest, l'émission qui parle de tout sauf d'immobilier. Présentée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Et bonjour et bienvenue à l'écoute de cette 66e émission de Complètement à l'Ouest et dernière de cette 7e saison. Il y a des mots qui changent notre perception du monde. Tiens, par exemple, en japonais, pour exprimer la lumière du soleil qui filtre à travers les feuilles des arbres, il y a le mot Komo Rebi. En allemand, le mot Waldisonmecht, je prononce évidemment très mal, exprime le sentiment de solitude paisible que l'on ressent dans une forêt. En suédois, l'art de se lever tôt pour entendre les premiers oiseaux chanter se dit Gögota. Forcément, ma prononciation est catastrophique, mais l'esprit est là. Je pourrais aussi ajouter Yunseul, en coréen, pour exprimer le reflet scintillant de la lumière sur une surface comme les rayons du soleil sur l'eau. Bref, les langues ont cette faculté d'exprimer des sensations, des sentiments pour à chaque fois parler de la beauté du monde et de la nature. Et pour cette émission de ce jour, nous allons effectivement parler de nature en tant que tout dans lequel nous, humains, vivons de plein pied. Nous allons parler de nature, celle qui est au cœur de la biodiversité dont nous sommes, qui nous compose et qui nous entoure. Mon invité de ce jour le dit mille fois mieux que moi et je le cite bien volontiers, l'humain est à 100% cousu de biodiversité, celle-ci doit être un écrin pour l'humanité. Passons linceul, apprenons vite à la vivre comme un humanisme. C'est parti, larguons les amarres et voguons cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour Marc-André Sellos.
Bonjour.
Et re-bienvenue au micro de Complètement à l'ouest. Je dis re-bienvenue car vous étiez déjà venu à ce même micro, c'était en 2024, pour parler de nature et préjugés, comme convier l'humanité dans l'histoire naturelle, volumineux et passionnant ouvrage qui était paru chez Actes Sud. Est-il besoin de rappeler que vous êtes microbiologiste, mycologue, grand spécialiste des champignons, vous êtes également enseignant au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et surtout un formidable vulgarisateur scientifique en mettant à la portée de tous vos recherches sur l'écologie et la biodiversité dans leur acception la plus large. J'ajoute que vous êtes également membre de l'Académie d'Agriculture de France et de l'Institut Universitaire de France, tout en appartenant à plusieurs comités éditoriaux de revues scientifiques internationales, et je ne compte même pas, car ce serait trop long, les centaines d'articles de recherche et d'articles de vulgarisation que vous avez publiés, sans compter vos vidéos de vulgarisation, là encore, que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Mais avant que nous parlions biodiversité en tant qu'humanisme, comme vous le proclamez, puisque c'est le titre de votre livre, je voudrais que nous écoutions trois courts extraits sonores en guise de rampe de lancement à cette entretien, c'est parti.
Voilà pour ce tour d'horizon bien sûr non exhaustif d'une biodiversité en danger sur tous les continents, avec quelques histoires quand même de politiques volontaristes qui changent la donne, comme ce projet Tiger. Mais il faut pourtant nous quitter sur ce constat alarmant, un taux d'extinction sans précédent et qui s'accélère avec un seul responsable, l'homme. Imaginez par exemple un monde où l'on n'entendrait plus d'oiseaux chanter. Or, en 30 ans, l'Europe a perdu plus de 421 millions d'oiseaux. Alors chacun d'entre nous, s'il possède un jardin, peut malgré tout tenter de les faire revenir en plantant des arbres pour leur servir d'abri, des arbres fruitiers, idéalement qui leur servent ainsi aussi de nourriture. Enfin, éviter de couper les haies et bien sûr, zéro herbicide.
On s'est inspiré donc d'un côté du comportement de la fourmi et l'autre côté de son cerveau.
Ici, la difficulté, c'est que ces machines volantes, on ne les connaît pas vraiment bien. Quand il bat des ailes, ça va créer des turbulences qui vont faire qu'on ne va pas pouvoir prédire son comportement.
Comprendre comment une mouche fonctionne, comment une fourmi fonctionne, une abeille fonctionne, et d'essayer de reprendre ces principes et de les intégrer dans un robot, bah, ça n'a pas tout le temps été accepté en fait. Hein.
À l'intérieur de ces granulés se cachent des champignons, des mycorhiziens. Ils permettent notamment de retenir 20% d'eau en plus dans les sols.
Ces champignons ont la capacité de créer une symbiose avec la racine des plantes. Et grâce à cette symbiose, la racine va pouvoir créer une extension racinaire qui va lui permettre donc d'aller prospecter les nutriments plus loin. Et grâce à cette prospection, la plante va pouvoir mieux se défendre et va surtout aussi avoir des bénéfices en termes de stress hydrique.
en granulés, en poudre ou en pralin. Plusieurs solutions ont été élaborées en fonction des besoins des clients.
Au niveau de la biodiversité, pour maintenir une plante en forme, il faut favoriser son installation et le champignon, c'est l'intermédiaire idéal en fait pour récupérer des oligo-éléments, des nutriments, etc. et aller puiser au plus possible dans nos sols qui, en plus de ça, sont des sols argilo-calcaires avec beaucoup d'argile et donc le complexe argilo-humique qui a tendance à retenir énormément de nutriments et de choses.
Alors, dans l'ordre, on a eu un extrait de l'émission Le Dessous des Cartes, que l'on peut voir sur Arte. Ensuite, il a été question de biomimétisme, autrement dit le fait de s'inspirer de la nature pour ensuite produire des machines ou des produits. Et enfin, un très court extrait de la chaîne de télé BFM Var sur une start-up de Brignoles qui utilise des champignons pour régénérer les sols et préserver les rendements. Marc-André Sellos, à l'écoute de ces trois courts extraits sonores, biodiversité en danger, la nature comme source d'inspiration et les champignons que vous connaissez si bien pour fortifier et régénérer les sols. Cette toute première question philosophique, s'il en est, puisqu'il en est question dans votre livre. Et ma question est la suivante. Pendant des siècles, les grandes, notamment traditions religieuses, ont placé l'homme au centre du monde, faisant souvent de la nature une ressource à disposition. Sommes-nous encore héritiers de cette vision anthropocentré, ou assistons-nous enfin aujourd'hui, notamment grâce à votre travail, au fait que nous faisons partie de ce tout et que mal se comporter avec ce tout, avec cette nature et avec cette biodiversité, c'est un peu creuser notre propre tombe?
Alors c'est compliqué cette question, mais il y a des cosmogonies, Philippe Descola en parle très bien, dans lesquelles l'homme est beaucoup plus intégré à la nature. Mais c'est vrai que dans le monde occidental en particulier, mais pas seulement, on a une vision effectivement de l'homme séparé de la nature avec une position singulière, alors qu'en réalité nous sommes un morceau de cette nature et nous sommes apparus dedans avec de multiples descendants, de multiples dépendances. Regardez, je suis venu avec du verre à soie, c'est ma cravate, du coton c'est ma chemise, du mouton c'est ma veste et j'ai même du bœuf là pour les chaussures et la ceinture. Et je vous dis pas ce que j'ai mangé ce matin. Il y avait aussi de la biodiversité. Et finalement, effectivement, on assiste parfois à un basculement de cet ordre-là. Les médecins commencent à comprendre que notre santé se fait, c'est le fameux concept de One Health, une seule santé, que si les écosystèmes fonctionnent d'une certaine façon. On voit aussi des philosophes ou des anthropologues qui réalisent ça. Mais c'est pas un basculement en masse. Car nous restons convaincus que les fondamentaux, c'est lire, écrire et compter. Et pas du tout savoir vivre, c'est-à-dire savoir ce que ça nous impose et aussi ce que ça nous permet. Du coup, c'est vrai qu'on est souvent en train de creuser notre tombe et les tendances actuelles à nier la science ou à ne pas l'écouter n'aident pas à aller dans la bonne direction, même si la science ne montre pas nécessairement la bonne direction. Elle est quand même dans le bouillonnement de possibles et dans le merdier du monde, disons-le, et des possibles. L'indicateur le plus fiable qu'on ait pour retrouver ce lien et surtout le cultiver, pour mieux cultiver l'humanité.
Le titre de votre livre, De la biodiversité comme un humanisme, m'a forcément interpellé. En particulier ce terme d'humanisme qu'on a beaucoup plus l'habitude de lire ou d'entendre sur des récits philosophiques. Alors le dictionnaire de l'Académie française définit notamment l'humanisme comme une doctrine, attitude philosophique, mouvement de pensée qui prend l'homme pour fin et valeur suprême, qui vise à l'épanouissement de la personne humaine et au respect de sa dignité. L'humanisme chrétien, l'humanisme athée, on pourrait ajouter, suite à la lecture de votre livre, l'humanisme de la biodiversité. Deuxième question philosophique pour commencer cet entretien, l'humanisme de la biodiversité est-il une extension de l'humanisme classique ou sa remise en question ?
Non, c'est une meilleure compréhension de... On ne peut pas dire que l'homme est contissé de biodiversité et est dépendant de biodiversité. Je pense à votre microbiote, par exemple. Votre microbiote, c'est ces microbes
intestinal.
À l'intérieur de votre intestin, mais aussi sur votre peau, dans votre nez ou dans le vagin, qui sont là... Bon, bien sûr, ils se nourrissent, ils en profitent, mais ils aident à entretenir les bâtiments. C'est-à-dire qu'ils ont des effets de protection, de régulation du fonctionnement, de régulation du métabolisme sur notre organisme qui sont vraiment importants. Donc, on est vraiment tissé de biodiversité. Donc, bien comprendre ce qu'est l'homme et le considérer comme une valeur suprême, c'est aussi accorder une place à ce qui le hisse à l'endroit où il est. Or, nous sommes hissés au statut d'humain par la biodiversité, qu'elle soit dans l'alimentation, dans l'environnement ou dans notre microbiote. Donc finalement, je suis tout à fait en accord avec la définition classique. Simplement, je réconcilie les choses et dire que finalement l'homme et le milieu ne sont pas des choses indépendantes. C'est notamment essayer de trouver la dimension naturaliste des grands concepts classiques d'une philosophie socio-humaniste. anthropocentré, c'est ouvrir les fenêtres, aérer ces concepts et les ouvrir enfin sur le monde vivant.
À la fin du court extrait sonore de l'émission d'Arte, Le Dessous des Cartes, on entendait la présentatrice conseiller d'arrêter de couper des haies et de, évidemment, de ne pas utiliser des herbicides. Sur cette question, vous parlez dans votre livre des haies qui réduisent la propagation de pathogènes et qui sont des refuges pour la biodiversité. Vous dites aussi que 25 000 kilomètres de haies disparaissent chaque année en France. Deux questions en une, un peu sous la forme de slogan, et j'imagine, je connais déjà votre réponse. Diriez-vous que la haie, c'est la vie, et il faut nous expliquer pourquoi. Et puis, plus largement, parler de haie et de champs, cela, bien sûr, revient à parler d'agriculture. Vous écrivez, et c'est à la page 50, qu'entre, je vous cite, « entre pesticides et labours, nos sols agricoles voient leur biodiversité d'espèces régresser, et que tout ça a aussi pour effet de faire plafonner le rendement de ces sols. Ce serait quoi l'idéal type d'une agriculture différente? Est-ce qu'elle n'existe pas déjà? Et à quelles conditions, dont économiques, est-elle possible ?»
Alors, arrêtons-nous deux secondes sur la haie et tous les organismes qu'elle recrute, des oiseaux, des chauves-souris, des insectes qui vivent là. C'est un bon exemple de comment cette biodiversité, en fait, c'est pas le nombre d'espèces qui compte pour nous. C'est le nombre et la diversité des fonctions que remplissent ces espèces. Elle est un écran. Cet écran est un écran qui réduit de 80% la propagation des maladies d'une parcelle sur l'autre. Mais aussi, qui empêche un vent qui va favoriser soit l'érosion, soit le dessèchement estival. Les racines profondes craquellent la roche et le sol et permettent de faire rentrer l'eau quand il pleut beaucoup, donc moins d'inondations, plus de réserves pour l'été. Ça stocke 100 tonnes de carbone par kilomètre de haie. Donc ça a un effet effectivement sur le climat. Ça a aussi des effets de réservoir de biodiversité, d'insectes pollinisateurs pour les cultures. Au total, c'est typiquement multifonctionnel et évidemment ça baisse le rendement parce que si vous mettez du blé à la place, vous aurez plus de blé. Mais en fait, vous augmentez la résilience du système, c'est important dans le changement climatique, et vous augmentez aussi et surtout la capacité finalement à remplir d'autres fonctions. Il y a aussi des fonctions paysagères d'ailleurs. Combien de paysages touristiques français sont bâtis par ces haies? Et on en arrache 25 000 km alors qu'on en replante 3 000, qui en plus sont des haies jeunes, donc qui n'ont pas l'effet, effectivement, n'ont pas recruté la diversité qui permet le fonctionnement d'une haie mature. Alors, ça débouche ça sur l'idée d'une agriculture idéale, qui serait une agriculture qui, bien sûr, ne se passera jamais totalement dans certaines rares circonstances du labour, qui ne se passera jamais d'engrais, qui ne se passera jamais complètement de pesticides, mais qui va d'abord valoriser le vivant comme outil de production. Par exemple, si à l'intérieur des parcelles vous faites des mélanges d'espèces, vous pouvez réduire de 40% la propagation des maladies, parce que si vous avez mélangé une céréale et une légumineuse par exemple, bah les maladies de l'un se transmettent moins bien, parce que quand ils passent d'un pied sur l'autre, bah l'autre et peut-être d'une autre espèce, et ça réduit la propagation des maladies. D'ailleurs, vous augmentez la production parce que ces espèces sont bien sûr un peu en compétition, mais elles n'exploitent pas les mêmes ressources du sol. En faisant des cultures mélangées dans les parcelles, vous pouvez augmenter la production de 30%. Et d'autant d'ailleurs la marge brute d'exploitation, ce qui est assez bon dans un contexte où les salaires agricoles sont pas bon. Vous devez aussi imaginer dans le temps diversifier les cultures de façon à avoir des rotations longues et que les parasites du maïs qui se sont développés une année attendent 5, 10 ans avant de revoir du maïs. Alors ça c'est une autre agriculture que l'agriculture actuelle. Mais tout ça, ça fait que vous utiliserez moins de pesticides et que vous vous appuierez plus sur la biodiversité, et notamment avec ces cultures variées et en labourant un minimum sur un sol plus vivant, qui donc est plus poreux, parce que c'est le vivant qui fait des trous, donc qui stocke plus d'eau. Un sol où il y a ces fameux champignons qui seront plus perturbés par le labour, et qui sont ces champignons dits mycorhiziens qu'évoquait le clip, et que notamment une petite boîte, effectivement, qui était citée, là, c'est Mycophyto, à Brignoles, vous propose d'inoculer. Vous avez ces champignons qui, en fait, sont l'interface entre la plante et le sol, et ils assurent de la fertilité et de la protection des racines. Donc, moins d'engrais, donc moins de phytosanitaires. Il y a donc tout un tas de solutions basées sur la nature qu'on doit appliquer en premier rang, et puis après, évidemment, des fois il faut actionner la sulfateuse, des fois il faut avoir recours à la technologie, à la chimie, on ne nie pas cela. On dit juste que dans le trépied chimie, technologie, vivant, bah pour l'instant on repose sur deux pieds. C'est moins stable qu'un trépied.
Vous montrez que 98% de la masse vivante océanique est microbienne, que 1 gramme de sol abrite des millions de bactéries, vous venez de le dire, et que seule une fraction des espèces a été nommée. En quoi cette découverte d'un monde majoritairement invisible transforme-t-elle notre définition de l'humanisme ?
On détecte maintenant les espèces sur la base de leur ADN. Et par rapport à l'époque où j'ai fait mes études, où on les détectait après les avoir mis en culture, alors même qu'on ne sait pas tout cultiver, on a découvert qu'il y avait 100 fois plus d'espèces dans les eaux, dans les sols, ou même en nous. Les fameux microbiotes dont on évoquait tout à l'heure la présence, sur notre peau ou dans notre type digestif. Vous et moi, nous abritons entre 5 et 10 000 espèces de champignons unicellulaires et de bactéries. C'est énorme. Alors, paradoxalement, c'est le grand choc n'est peut-être pas au niveau des sols et des eaux, même s'il y a des façons de mieux gérer ces écosystèmes et notamment leur productivité. On parlait des champignons associés aux racines des plantes tout à l'heure. Mais il y a cette prise de conscience que nous, notre santé, elle est contissée de microbes. Et que ces microbes sont pas juste des habitants, mais ils contribuent, par exemple, à la satiété quand on commence à manger. Parce que leurs produits fermentaires passent dans le sang et indiquent au cerveau que, ça y est, il y a des aliments dans le tube digestif. Ils contribuent au fonctionnement de notre système nerveux. Ils réduisent, par exemple, notre sensibilité au stress. Ils régulent le fonctionnement de notre système immunitaire et ils diminuent le nombre d'états pro-inflammatoires. Ça fait des rhumatismes ou des insuffisances rénales, mais aussi, quand le système immunitaire fonctionne n'importe comment, c'est cancérigène, ça fait des cancers. Et là, on se dit, il faut vraiment entretenir cette diversité microbienne en nous, parce qu'elle est base de santé. Il ne s'agit pas de revenir à l'époque où n'importe quel microbe rentrait et on était malade, mais en virant les méchants, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'on a aussi jeté les microbes favorables, et nous ne les entretenons plus assez.
Vous parlez là des antibiotiques, notamment.
Mais aussi de tous les émulsifiants, les conservateurs, les colorants de nos aliments ou des substances qui nous environnent ou qu'on met sur la peau. Ça, c'est mauvais pour notre microbiote, plus encore que les antibiotiques. Et puis, je vais vous dire, il y a des gestes positifs. Et les gestes positifs, c'est de leur donner des fibres. S'il faut manger des fibres, c'est pas que ça nous nourrisse, c'est que ça nourrit nos microbes. Et comme il faut nourrir des microbes différents, il faut manger des fibres différentes. Il faut une alimentation plus variée. 5 fruits et légumes par jour, oui, mais surtout, au moins 25 espèces par semaine. Et là, c'est un peu problématique parce qu'on les a pas. Mais si on reconstruisait une agriculture qui nous donne plus de salsifis, plus de topinambours, plus de panais, plus de que sais-je, plus de rutabaga, et c'est pas mauvais le rutabaga, il faut vraiment réessayer, on aurait une agriculture qui commencerait à produire peut-être moins de blé, moins de maïs, moins de patates, et on pourrait augmenter les rotations et remplir l'autre case que je vous proposais tout à l'heure, d'avoir une agriculture dont les produits sont suffisamment différents pour que les maladies d'une culture se propagent moins bien. En fait, tout est là, c'est que des solutions. Une alimentation végétale plus variée pour nourrir nos microbes et faire notre santé, et en même temps faire en sorte que l'agriculture soit pas accro aux betteraves à sucre, au blé et au maïs, et puisse faire des rotations longues, et donc est finalement des cultures moins sensibles, parce que moins massivement cultivées aux pathogènes. Voilà, c'est juste une autre attitude, et faire de la biodiversité une solution. Ce qu'elle a toujours été, d'ailleurs, avant que, en l'abîmant, on s'aperçoit que des fois, ça marche moins bien sans elle.
C'est logique. Vous insistez sur le fait que la biodiversité n'est pas une simple liste d'espèces, mais vous dites un mécanisme dynamique avec des gagnants et des perdants. Que signifie cette biodiversité en tant que mécanisme ? Et dans cette dynamique-là, sommes-nous aujourd'hui dans une phase de création, d'extinction, ou dans une transition dont on ne mesure pas encore l'ampleur ?
La biodiversité est à l'évolution biologique ce que le patrimoine culturel est à l'évolution culturelle. C'est le résultat à un moment d'un processus. Et le processus qui crée la biodiversité, c'est d'une part la sélection, qui sélectionne les plus adaptés. Alors là, vous allez me dire, du coup, ça retire du monde. Oui, mais il y a toujours des moins adaptés qui vont mourir avant de se reproduire ou se reproduire moins que les autres et qui contribuent moins à l'avenir. Mais aussi, au moment où se reproduisent les organismes qui ont réussi, qui ont été sélectionnés, regardez vos enfants. Vous regardez vos parents, lors de la reproduction, on fait des descendants un peu différents, à cause des mutations en partie, et puis surtout à cause des lois de l'hérédité qui font qu'on recueille un peu des gènes de chacun des parents. Et donc, quand ceux qui ont réussi se reproduisent, ils produisent une biodiversité accrue, une biodiversité différente, qui va de nouveau subir une sélection naturelle. Il y a des fois où la sélection retire plus que le générateur de diversité lors de la reproduction de reproduits, ce sont les périodes d'extinction. Et il y en a eu plein, il y en a eu au moins 6 depuis 600 millions d'années.
Nous sommes dans une période d'extinction.
Nous sommes dans la sixième, oui. Cause des sélections imparties par l'homme. Mais de la même façon, il y a des périodes, et elles ont suivi toutes les extinctions d'ailleurs, c'est pour ça que la biodiversité est inextinguible, où il y a plus de gagnants, plus de trucs qui réussissent que de choses qui meurent. Ce sont les périodes de radiation évolutive, et toutes les grandes périodes d'extinction, et la période actuelle notamment, sera suivie d'une période de radiation évolutive. Mais je dis souvent que la biodiversité est inextinguible. Mmh. Elle subit des fluctuations, mais pas des crises au sens où une crise peut entraver le processus. Mmh. Il ne nous appartient pas d'éteindre ce processus où, dès qu'il y a quelques vivants, ils en génèrent plus et la biodiversité repart. Mmh.
Alors, nous, on va marquer une courte pause musicale avec l'écoute de ce morceau que vous avez choisi, Marc-André Sellos. Il s'agit de Giuseppe Saverio Raffaele Mercadante, compositeur italien du XVIIIe siècle, j'ai eu du mal à le dire, à qui l'on doit notamment ce concerto, qui intègre la flûte comme instrument majeur. Alors, compte tenu évidemment de la profondeur de cette œuvre, on ne pourra pas tout entendre, seulement malheureusement les premières minutes. Autrement dit, c'est Allegro maestroso, qui au sens littéral signifie un mouvement rapide, vif, enjoué, tout en étant majestueux, noble, imposant, un peu comme la biodiversité. On l'écoute.
Complètement à l'ouest, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Allez, de retour en studio avec le biologiste Marc-André Sellos qui publie De la biodiversité comme un humanisme. C'est paru aux éditions du Seuil. Alors, la question du sol occupe une place particulière dans les imaginaires collectifs de l'humanité, presque toute civilisation confondue, pour ne s'arrêter qu'à la littérature française. Pagnol parle de la terre comme mémoire et dignité. Jean Giono évoque la terre provençale comme une force cosmique. Bachelard voit en la terre une matière rêvée. Et dans un autre style, Pierre Rabhi parle de la terre nourricière. Et très récemment, Julien de Normandie, l'ancien ministre de l'Agriculture, a écrit il y a quelques mois une sorte de conte philosophique qui s'intitule Le chant du sol, dans lequel il imagine le sol se mettre en grève car lui, cet ami précieux qui nous veut du bien, souffre en silence. Est-ce que la science moderne des sols confirme d'une certaine manière que ce que les écrivains pressentaient, à savoir que le sol n'est pas un simple support inerte de nos activités, mais une entité mille fois vivante, fragile, structurante, bref, un partenaire de notre destin collectif, en lien, bien sûr, avec la diversité, avec la biodiversité et l'humanisme.
Mais oui. Et on voit là très bien des gens d'horizons différents. Bon, alors Julien de Normandie, il fait un très joli conte, il est agronome. Bon. Mais d'autres sont de pur littéraire et ils pressentent des choses qui montrent que finalement, prendre conscience de la biodiversité n'est pas que l'apanage de la science, hein, et que diverses pratiques finissent par la prendre en compte. Les sols, c'est dans les sols que se décompose la matière morte et que se recyclent l'azote et le phosphate qui vont permettre aux plantes de grandir. Et l'azote et le phosphate qui est libéré par les êtres vivants du sol, il est acheminé vers les plantes par ces fameux champignons associés aux racines des plantes. C'est là aussi que des bactéries se cachent qui trouvent les conditions idéales pour transformer l'azote atmosphérique en protéines. Et quand elles se décomposent, ça donne du nitrate, de l'ammonium, bref, de l'azote utilisable par les plantes. D'autres microbes, bactéries et champignons attaquent les roches et libèrent le fer, le calcium, le potassium, le sodium, le magnésium,
dans
le manganèse.
Dans les océans notamment.
Tous les minéraux qui constituent le vivant. Et finalement, nous-mêmes, nous sommes héritiers de tous ces minéraux. Mais il n'y a pas que ça. Cette vie fait des trous. Quand elle fouille, quand une petite bactérie se déplace, ou quand un acarien fait un trou, ou un ver, elle fait des trous en mourant, quand une racine meurt, ou un filament de champignon meurt, et c'est ces trous qui retiennent l'eau. Et cette eau qui est retenue dans les trous va aller dans les plantes, où elle va lentement ressortir du sol, où elle va régulièrement nourrir des rivières, même entre deux pluies, mais en plus elle aura été filtrée. Filtrée physiquement, mais aussi filtrée par le métabolisme des microbes qui se trouvent là, et purifiée, à moins que le filtre ne soit encrassé d'un excès de pesticides. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que toute cette diversité correspond à une diversité de fonctions, et ces fonctions sont des supports de ce que nous sommes, puisque de l'eau aux constituants minéraux et aux atomes qui nous constituent, tout vient de là. Et quand je dis qu'il n'y a pas de crise de la biodiversité, je dis que la biodiversité subit une extinction comme elle en a déjà subi. On a perdu 10% des espèces depuis que l'homme agit comme il agit. Mais, en revanche, là où il y a une crise, c'est une crise des ressources qui permettent de faire l'humanité. Car aujourd'hui, nos eaux sont polluées, nos sols ne fonctionnent plus, n'ont plus la fertilité historique, et déstabilisés par le labour, ils s'érodent et ils partent dans nos rivières 10 fois plus vite qu'ils ne le devraient. Donc, en quelque sorte, ce qui illustre les sols, et ce qui justifie que Julien de Normandie leur fasse faire grève dans son conte, c'est une crise de l'humanité. Et parler de crise de la biodiversité, c'est encore une façon de séparer nature et humanité, et dire tiens, il y a une crise dans le compartiment là-bas. Mais non, le compartiment là-bas subit une fluctuation, mais ceux qui éprouvent la crise, c'est nous.
La conversion des milieux, notamment l'artificialisation des sols, vous écrivez l'équivalent de plusieurs terrains de football par heure qui disparaissent.
5, oui.
Hein, c'est fou. Figure parmi donc les causes majeures d'érosion de la biodiversité que vous venez de décrire. Comment est-ce qu'on peut concilier finalement développement urbain, logement, infrastructure et préservation du vivant sans tomber dans une opposition stérile, manichéenne, consistant à dire plus de biodiversité égale moins d'urbain?
Alors, déjà, la vitesse d'artificialisation, 5 terrains de foot par heure, jour et nuit en France,
c'est fou, ce rythme-là.
Ça fait disparaître la surface qui nourrit la ville du Havre chaque année. Et, ça vient d'une part du fait que nos modes de vie, de consommation et d'organisation du territoire sont de plus en plus gourmands en zone commerciale, zone logistique, zone de transport. La vitesse d'artificialisation, c'est l'artificialisation croît à 3,7 fois la vitesse de l'accroissement démographique. Donc, on ne vienne pas me dire que c'est juste parce qu'on est plus nombreux. Bien. Alors, il y a deux solutions à ça. Déjà, il y a des solutions d'aménagement tout bêtes. Les centres-villes se meurent. On voit très bien qu'on est à 10% de beaux commerciaux vacants en centre-ville. Il y a une façon de réorganiser la ville aujourd'hui et de pas en faire un mouroir au centre et une espèce de croissance effrénée vers la périphérie. Bien. Il y a aussi une autre façon de consommer et d'organiser le paysage. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'est pas obligé en ville d'avoir des déserts vivants. Dans le sillon de la charte d'Athènes, qui date des années 30, on voit la ville comme un endroit qui est construit autour de travailler, habiter, circuler, et puis plus récemment des loisirs. Il n'y a pas de place pour la nature. Or, vous savez quoi ? Un peu de nature en ville, un peu de biodiversité, ça fait des écrans phoniques, ça purifie l'air. Ça fait des écrans optiques qui permettent que les gens qui sont dans la rue voient pas ce qui se passe dans les immeubles. Ça fait des zones de convivialité. Ça fait, avec le sol qu'il y a en dessous, des façons de boire l'eau quand il pleut beaucoup et de faire des réserves d'eau qui vont s'évaporer en été par les plantes et donc des îlots de fraîcheur. Ça permet aussi de faire de la santé mentale. Il y a cette étude que je cite en Angleterre. C'est une étude effectivement, il y a anglaise, qui nous raconte que chaque fois qu'on vit 350 mètres plus loin de l'endroit de nature le plus proche, on a 5% de risque en plus de maladies neurologiques. Et les déterminants ne sont pas que socioculturels. C'est énorme ce que peut faire la biodiversité en ville. Et en plus, comme en ville, il n'y a pas d'impératif de production, on peut avoir, je pense notamment aux toits végétalisés,
bien sûr,
qui sont des isolants d'ailleurs thermiques, on peut avoir une biodiversité en quasi libre évolution. Donc, on peut entretenir de la biodiversité puisqu'on n'a pas des contraintes de production. Mais cela dit, pour vous dire à quel point on a perdu la vision des fonctions de la biodiversité, moi, on a en ville ce que moi j'appelle des arbres et des arbustes à la con. Parce que ces machins, ils sont beaux, mais ils sont exotiques. Alors, de temps en temps, en plus, ils deviennent invasifs quand ils prennent leur autonomie. Aujourd'hui, l'herbe de la pampa, qui est très très jolie dans nos jardins, c'est une plante invasive qu'on a beaucoup de mal à dessoucher dans les endroits où elle devient invasive, notamment en Bretagne. Et on met pas des espèces qui se mangent. Pourquoi il n'y a pas des châtaigniers, des pommiers, des chênes qui font des glands comestibles? Ça existe, oui. Pourquoi il n'y a pas des cerisiers? Pourquoi il n'y a pas des cassissiers ou des framboisiers dans nos jardins? On a complètement perdu de vue que ça pouvait se bouffer, la nature. Et donc, on a perdu en fait cette diversité fonctionnelle, et là, des fonctions, j'en ai listé en ville, et notamment dans le cadre d'un climat où les précipitations d'hiver s'accroissent et les précipitations d'été diminuent, avec des chaleurs estivales, retrouver des réserves en eau et des plantes qui évaporent ça, qui font des îlots de fraîcheur en été, c'est absolument vital. En fait, c'est ça le truc, c'est que la biodiversité, c'est pas un truc... Ça, bien sûr, ça a une valeur intrinsèque, mais ça a surtout une valeur d'outil pour l'humanité. Et l'humanité est en train de perdre ses outils, parce que chaque espèce qui s'échappe... Bien sûr, un jour, il y aura une espèce qui fera la même chose, mais c'est dans 120 à 250 générations d'ici. Ça veut dire qu'on prive nos enfants d'où et notamment d'outils en ville. Et donc, bien sûr, il faut que les villes arrêtent de grandir. Ce sera très bon pour laisser du sol libre, mais il faut avant tout mettre de la nature en ville. Et une nature multifonctionnelle, comme les haies tout à l'heure. Toutes les fonctions, ça se pense. Mais pas, effectivement, dans l'état actuel des études d'urbanisme et d'aménagement urbaine.
Alors c'est vrai que sur ce sujet, quand même, la législation en matière de zéro artificialisation nette permet de freiner un petit peu les choses. On voit l'apparition également de documents d'urbanisme dans les villes qui font en sorte que la nature, la biodiversité reprennent sa place. Mais en effet, on est encore peut-être un peu loin du compte.
Oui. Bah oui, et puis la loi Trace a, en juin dernier, complètement détricoté la loi ZAN et l'a vidé de son ambition, qui était une ambition d'ailleurs assez inique. Parce que le but, c'était d'arrêter l'artificialisation en 2050 et d'arriver en 2036, je crois, à mi-course. C'est-à-dire à diminuer de 50% l'artificialisation. Ça revenait à imposer à nos enfants de faire une chose qu'on ne pouvait pas faire, hic et nunc, ici et maintenant. C'était déjà bizarre, mais c'était quand même la moindre des choses à faire. Surtout dans un changement climatique qui nous promet une moindre productivité. Je vous rappelle que les villes sont installées au milieu de zones productives, puisqu'historiquement, elles mangeaient ce qui venait autour. Et que donc, quand on artificialise autour des villes, c'est les terrains les plus productifs qu'on artificialise. C'est pas des terres incultivables. Et donc, ce qui est très important, c'est de se dire que il y a derrière une gestion des sols productifs et un freinage de l'artificialisation une ressource pour manger demain. Il s'agit de souveraineté. La loi ZAN, elle a un bras géopolitique dans un climat qui change, qui a été complètement oublié par des élus qui ont voulu juste à court terme continuer à faire des zones d'activité économique. Et je les comprends, mais je ne les excuserai pas, car ce sont mes enfants dont ils sont en train de retirer la nourriture du gosier. C'est, je le répète, gérer la biodiversité. Vous êtes propriétaire du résultat. C'est pas comme quand vous émettez moins de CO2. Là, c'est décidé aussi par ce que font les Chinois et les Indiens et les Américains.
On a la main là.
Mais là, vous avez la main, et la main pour vos enfants. Alors que diable, ne les privons pas de ces outils sur lesquels nos générations ont fleuri.
À la page 79, Marc-André Sellos, vous écrivez, vous dites « Devenons sculpteurs raisonnés de la nature autour de nous, car c'est une façon de nous sculpter nous-mêmes. En quoi transformer nos paysages, restaurer des haies, désimperméabiliser les sols, on vient d'en parler, renaturer des villes, transforme notre manière d'habiter le monde et de nous percevoir comme plus humains, finalement plus humanistes.
Bah, » l'idée, c'est qu'on est comme toutes les espèces. On instrumentalise les ressources de la biodiversité. Quand un oiseau fait son nid, il arrache du crin, il prend des mousses, et croyez-moi, la mousse qui passe dans le nid, bah, elle a fini de vivre, hein, sa vie de mousse. Donc, on est tous, être vivant, c'est utiliser le milieu. Mais nous, nous avons une force. La force de prédire, de prévoir. Et nous avons donc la capacité d'utiliser aujourd'hui, en assurant à nos enfants d'utiliser demain. Alors, à partir de là, si vous aimez vos enfants, vous lisez le bouquin et vous agissez. Si vous en foutez de vos enfants, et c'est une option. Hein. Bah, vous les laissez crever dans leur coin.
Allez, le temps file. Toute dernière question. Et je rappelle bien sûr que ce livre, c'est « De la biodiversité comme un humanisme » de Marc-André Sellos. Il faut le lire, je le répéterai en fin d'émission. Toute dernière question, vous écrivez encore « Partout autour de vous règne une biodiversité ordinaire ». Ouvrez les yeux. Pourquoi avons-nous tant de mal à percevoir cette biodiversité quotidienne, ces microbes, alors on les voit pas, mais on les devine peut-être, les sols, les haies, les algues invisibles, alors que nous sommes fascinés par les espèces spectaculaires. Y a-t-il chez nous un biais, chez nous, chez les humains, un biais culturel, presque esthétique, qui nous empêche de protéger ce qui ne se voit pas ?
Ah, on ne voit que ce qu'on voit. Et c'est vrai que pour les microbes, ou même le concept de diversité génétique, ça échappe un petit peu à l'observation directe. Cela dit, ça ne devrait pas échapper à la formation. Mais comment voulez-vous qu'avec une heure seulement de sciences de vie et de la Terre par semaine, on fabrique des générations différentes de celles d'hier, des générations qui seraient plus capables de prendre conscience de l'importance du vivant et de sa nature exacte, notamment comme outil. En fait, je vais vous dire, l'idée c'est que nous avons cultivé, et je reviens sur cette idée des fondamentaux, lire, écrire et compter, nous avons cultivé une vision des outils nécessaires à vivre en société, alors que nous vivons dans le monde, nous vivons dans le vivant, et nous devons aussi faire société avec le vivant. Et ça, ça nous prive non seulement de comprendre ce dont nous mourons, parce que aujourd'hui l'état de notre microbiote entraîne des maladies, mais ça nous prive aussi d'outils. Et ce livre, je l'ai écrit avec la vision très positive de dire, attention, il y a des outils. Alors évidemment, c'est très négatif dans une dynamique d'extinction comme ce qui est en train de se passer. Mais la promesse, c'est qu'il y a dans le vivant une belle au bois dormant qu'on pourrait ressusciter en ayant plus conscience et en enseignant mieux ce qu'est le vivant et ses possibles et ses fonctions.
Un grand merci Marc-André Sellos d'être venu pour la seconde fois au micro de Complètement à l'Ouest. J'espère qu'il y aura encore beaucoup d'autres fois et que vous accepterez de venir une troisième, quatrième et voire plus pour professer ce que vous dites avec brio et avec grand talent.
Avec plaisir.
Je rappelle que votre dernier ouvrage s'intitule « De la biodiversité comme un humanisme » et c'est paru aux éditions du Seuil. C'est un petit livre, moins de 80 pages, passionné, passionnant, on l'a compris, engagé, militant au sens noble du terme, bref, profondément humain et donc humaniste. Et puisque dans quelques semaines, les vacances d'été vont se profiler, c'est un petit livre à mettre véritablement dans vos valises. Je le disais au début de cette 67e émission de ce jour, c'est la dernière de cette 7e saison. Et comme il est de coutume, je tiens à remercier la dizaine d'invités qui se sont succédés à ce micro, avec dans l'ordre d'apparition. J'ai eu le plaisir d'accueillir Frédéric Ancel, qui nous a parlé de guerre et de géopolitique. Laurent Berger, ex-secrétaire général de la CFDT, qui était venu nous présenter son livre co-écrit avec le PDG de Saint-Gobain, Benoît Bazin. Il y eut ensuite, et pour la 60e émission, Laetitia Vito veut pour nous parler de l'atout âge. Pour la 61e, j'accueillais Eddy Fougier, suivi de la sociologue Monique Dagneau pour son livre Génération Reset. Il y eut ensuite, fidèle à l'éclectisme de cette émission, Jean-Philippe Thiellet pour nous parler de sa passion pour l'opéra, en nous invitant à y aller, car oui, l'art lyrique s'adresse à tous. Au titre de cette 64e émission, Karine Berger nous a parlé du déclin de la science en France et surtout comment remédier urgemment à cette situation. Et enfin, pour nos deux dernières émissions de cette saison, nous nous sommes régalés en écoutant deux passionnés du climat, de la nature et de la biodiversité. D'abord, Nathanaël Vallenhorst pour son ouvrage 2049, ce que le climat va faire à l'Europe. Et enfin, vous-même, cher Marc-André Sellos, pour ce petit livre dont il a été question tout au long de cet entretien, De la biodiversité comme un humanisme, paru au Seuil, je le répète, bien volontiers. Merci donc à tous ces invités et toutes ces invités. Merci aussi à nos auditeurs et auditrices qui, de mois en mois, d'année en année, vous faites vivre complètement à l'Ouest grâce à votre écoute et téléchargement sur les principales plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast et beaucoup d'autres. Et enfin, en cette toute fin d'émission et de saison, il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble de l'équipe technique, Jason en studio que je vois, Baptiste et tous les autres qui, avec professionnalisme, efficacité et gentillesse, vous m'avez assisté tout au long de cette saison. Merci à vous toutes et tous qui vous êtes relayés en régie pour faire en sorte que tout roule à la perfection. J'en profite pour saluer mon ami Eric également en régie. Last but not least, merci également pour leur confiance renouvelée à Sylvain Lévy-Valency, Karine Weber et Olivier Lucas qui depuis 7 ans, bientôt 8, me donnent cette carte blanche et me font entièrement confiance. Voilà, tout est à présent dit et selon la formule coutumière de cette émission depuis maintenant 7 saisons, il ne reste plus qu'à garder le cap à l'ouest, complètement à l'ouest. Merci à toutes et à tous et on se retrouve donc pour la prochaine saison, la 8e, dès septembre prochain. À bientôt.
Complètement à l'ouest, une émission à réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.